Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Venise, ses gondoles, ses canaux et son ticket d'entrée maintenant à 5 euros. À partir de ce matin, les touristes doivent payer pour visiter à la journée la célèbre ville italienne. RMC est en direct sur place. Des centaines de vols annulés, des voyageurs qui se retrouvent ce matin coincés à Paris avec la grève des contrôleurs aériens. Préavis a été levé, mais il y a quand même jusqu'à 75% d'annulation. Et puis cette question, reverra-t-on un jour Rafael Nadal à Roland-Garros? Pas sûr du tout, le tennisman espagnol donne des nouvelles pas rassurantes, vous allez l'entendre.
Et puis la politique, l'État qui cède au chantage à la grève, la paix sociale, mais à quel prix? Voilà l'une des questions que je poserai à mon invité politique à 8h30, ce sera François Bayrou. Nouvelle étape dans la lutte contre le surtourisme.
Oui, on connaissait déjà les quotas dans les calanques à Marseille, sur l'île de Porquerolles, bientôt sur l'île de Ré pour les locations de maisons. Eh bien, la célèbre ville italienne de Venise va encore plus loin ce matin, puisqu'à partir de 8h30, il va falloir payer. Caroline Philippe, vous y êtes en direct pour RMC, envoyée spéciale sur place à Venise. Il faudra donc payer 5 euros pour entrer dans la ville.
Oui, premier contrôle dans 30 minutes ici près de la gare de Santa Lucia où je me trouve. Pas de tourniquet pour rentrer dans Venise, mais des vérifications aléatoires opérées par une poignée d'agents à différents points de la ville. De grands panneaux installés sur le parvis de la gare préviennent les touristes. Ici, le ticket est obligatoire entre 8h30 et 16h. Pas tous les jours, 29 dates surfréquentées ont été sélectionnées pour 2024 par la municipalité et ça commence aujourd'hui car c'est férié ici en Italie. À la sortie du train, Karen, touriste autrichienne et sereine, son ticket est prêt, déjà téléchargé sur son smartphone.
Oui, je pense que c'est nécessaire parce qu'effectivement, s'il y a trop de touristes ici, ça peut être compliqué pour la ville. C'est un ticket très simple à obtenir et je paierai les 5 euros sans problème, je comprends tout à fait.
It's also okay.
Mais pour Karen, comme pour tous ceux qui ont une nuit d'hôtel ici, le ticket est gratuit. C'est aussi le cas pour les moins de 14 ans. L'objectif est surtout de limiter le tourisme à la journée. Les fraudeurs risquent entre 50 et 300 euros d'amende. Mais les contrôleurs promettent d'être cléments les premiers jours.
Mais alors comment? Comment aller à Venise ce matin? Jusqu'à 75% des vols sont annulés selon les aéroports avec le préavis de grève des contrôleurs aériens. Préavis qui a été levé hier par le principal syndicat dans la foulée d'un accord trouvé in extremis avec l'aviation civile portant sur les salaires. Mais trop tard donc, c'est à l'aéroport d'Orly ce matin qu'il y a le plus de perturbations. C'est là que vous êtes en direct pour RMC, Clara Gabillet, avec des voyageurs qui arrivent de loin et qui se retrouvent coincés à Paris ce matin.
Oui, des voyageurs sur le carreau, nombreux à se présenter au guichet des compagnies aériennes pour demander un remboursement ou un autre billet, comme Evelyne, qui arrive de La Réunion et dont la correspondance pour Nice est annulée.
Nous avions mis sur un autre vol au départ de Charles de Gaulle ce soir. Et là, nous venons de recevoir également un message comme quoi que notre vol est annulé et qu'il fallait que l'on se débrouille par nous-mêmes et qu'on devait faire une demande de remboursement. Des trains, les bus, tout est complet. On est coincé. Donc maintenant, la seule solution, c'est peut-être essayer de louer une voiture pour retourner sur Cannes.
Ils sont plusieurs à avoir la mauvaise surprise ce matin, comme ce passager qui devait partir au Maroc et qui vient d'apprendre dans le hall de l'aéroport que son vol était annulé. Il est venu pour rien, car il n'a pas été prévenu par mail hier. Des voyageurs qui se plaignent d'être mal aiguillés, à qui l'on donne un numéro sur un bout de papier, un numéro à appeler pour essayer de trouver une solution. Encore plus difficile de s'y retrouver ce matin quand les vols annulés ne sont même pas affichés sur les écrans.
Voilà, ce sont les bras de fer dans les transports avant les Jeux Olympiques, après les contrôleurs aériens, après les cheminots. Tiens, on apprend à l'instant ce matin eh bien qu'à la RATP, les conducteurs de métro, de bus en région parisienne, Force Ouvrière, le syndicat majoritaire et la CGT annoncent donc qu'ils ont trouvé un accord avec la direction. Ils demandaient des primes, ils les ont obtenues jusqu'à 2500 euros donc dans ce bras de fer dans les transports avant les JO. Cet appel à la grève aussi, tiens, ça se passe à Rennes. Appel à la grève contre l'insécurité à partir de lundi dans certains quartiers de la ville où jardiniers et employés municipaux disent qu'ils se font contrôler et fouiller par des dealers quand ils viennent y travailler avec des agressions verbales, mais aussi physiques de plus en plus fréquentes. La preuve, écoutez avec Martin Cadoret, le correspondant de RMC à Rennes.
Dans le quartier sensible du Blône, l'ambiance a changé depuis quelques mois, décrit Serge, jardinier à la ville de Rennes. Pour ne pas se mettre en danger, en témoignant, il a souhaité que sa voix soit modifiée.
Au quotidien, on voit les dealers qui sont de plus en plus agressifs. On commence à découvrir des armes sur le secteur. L'été dernier, on a trouvé un Kalachnikov. Ça commence à être vraiment très inquiétant.
Serge se fait parfois interpeller par ces dealers de plus en plus méfiants. Voilà ce qu'ils lui disent.
Tu ouvres ton blouson, on va voir ce que t'as dessous. On ne sait pas si vous enregistrez pas, on ne sait pas si vous avez un appareil photo, vous ouvrez votre blouson. Quand vous êtes deux ou trois agents sur le terrain, comme vous fassiez entouré par 6 ou 7 personnes, vous réfléchissez pas, hein, vous faites ce qu'ils vous disent. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital, je suis pas serein. Il y a des jours, j'ai pas envie d'aller bosser.
Il admet que sa direction laisse le choix aux agents de ne pas y aller s'ils se sentent en danger, mais ce n'est pas suffisant selon Stéphane Morando, représentant syndical Sud.
Il faut des vrais engagements forts avec l'attribution d'une prime, 80 euros, puisque plus personne, en termes de personnel, ne veut venir travailler dans ces quartiers. Mais pas que, il y a aussi l'organisation du travail, qu'ils puissent être en binôme au minimum pour assurer leur sécurité et leur santé.
De son côté, la mairie assure soutenir les agents avec des mesures de protection et des formations pour savoir comment agir à proximité de points de deal.
Seulement 16 ans, un adolescent de Haute-Savoie interpellé hier car il envisageait de commettre un attentat pendant les Jeux Olympiques. Les policiers ont trouvé chez lui une lettre d'allégeance à l'État islamique, mais aucune arme. À 8h06 sur RMC, la campagne des Européennes, elle va sans doute s'accélérer ce matin avec un discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure. À 11h, le président qui est de retour dans la prestigieuse université parisienne de la Sorbonne, où il avait déjà prononcé un discours sur l'Europe, c'était il y a 7 ans dans la foulée de son élection. Et alors là, c'est dans le contexte des Européennes du mois de juin, alors que sa candidate est à la peine dans les sondages, Hélène Terzian.
L'Europe, puissance, est-ce la formule waouh évoquée par un ancien ministre et tant recherchée par la Macronie pour marquer les esprits? C'est en tout cas comme ça que l'Élysée présente officiellement l'objectif du discours. L'entourage d'Emmanuel Macron s'évertue à le dire, ce n'est pas l'entrée en campagne du président pour les Européennes, mais un discours de chef d'État pour peser sur le prochain agenda européen. Sauf que le timing n'est pas anodin. À un peu plus d'un mois du scrutin, une candidate macroniste à la peine dans les sondages, devancée de loin par le RN et talonnée par les socialistes. Un poids lourd de la majorité habile répond que ce n'est pas un discours de campagne mais dans la campagne. Alors autant l'utiliser selon lui comme du carburant. Subtil dosage entre le bilan européen du président et sa vision sur la défense, la sécurité, l'économie. Ce qui est sûr, assure ce fidèle, c'est qu'il pense à l'héritage qu'il laissera en Europe.
Plusieurs informations à vous donner ce matin en sport. Paris d'abord. Paris toujours pas champion en Ligue 1 malgré sa victoire 4-1 hier soir à Lorient. Pourquoi? Parce que Monaco, dans le même temps, ça dépendait du résultat de Monaco qui a gagné 1-0 contre Lille. Les Monégasques solides deuxième au classement. Match nul de partout entre Marseille et Nice. Et puis cette sortie, donc, je vous le disais, pas très rassurante de l'Espagnol Rafael Nadal, blessé depuis le début de l'année. Le tennisman qui faisait son retour là récemment. Mais alors, il dit qu'il n'est pas sûr du tout de participer à son tournoi qu'il adore de Roland-Garros dans un mois, Léna Marjac.
C'est son moment préféré de la saison, la terre battue. Mais l'Espagnol est loin de se sentir à 100% physiquement.
Si je pouvais jouer avec peu de contraintes, même si je perds, ça serait positif pour moi. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste que c'est difficile. Les sensations de la semaine à l'entraînement n'ont pas été bonnes.
Et quand on le questionne sur sa présence à Paris pour Roland-Garros, sa réponse est claire.
Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je vais tout faire pour pouvoir jouer à Paris. Et si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Si j'arrive à Paris en me sentant comme je me sens aujourd'hui, je ne jouerai pas.
Pour Florent Serra, consultant tennis pour RMC Sport, il est inimaginable de ne pas voir Rafa Nadal à Roland-Garros, tournoi qu'il a remporté 14 fois.
Je vois bien Rafa, j'aime pas l'expression mourir, mais entre guillemets tout donner à Roland-Garros en tout cas, même si tu vois qu'il n'est pas encore à 100%.
Mais l'Espagnol a bien insisté en conférence de presse. Un forfait au Grand Chelem parisien ne signifiera pas la fin de sa carrière. Nadal compte bien jouer les Jeux Olympiques.
Et alors vous allez forcément voir les images aujourd'hui du Moulin Rouge, parce que les ailes du célèbre cabaret parisien sont tombées dans la nuit. Les lettres Mou, M-O-U, également ont été arrachées.
Mais non, donc il n'y a plus que marqué que Mou. Il y a Lin Rouge.
C'est le Lin Rouge,
c'est une petite tour. Il n'y a plus de moulin, il n'y a plus d'ailes au moulin.
Les ailes, ça fait tout bizarre. On ignore pourquoi la nuit n'était pas particulièrement venteuse cette nuit à Paris. Il n'y a pas de blessés, fort heureusement, nous disent les pompiers.
Et les images sont effectivement surprenantes. C'est tout un symbole. C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le site internet Coco est un repère de pervers et de pédophiles qu'il faut absolument fermer au plus vite. Voilà le parti pris de l'avocate Cathy Richard, alors qu'un procès s'ouvre aujourd'hui à Valenciennes et que le site en question est en réalité toujours accessible. On la retrouve en direct dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h12 et vous êtes bien sur RMC.
Le parti pris.
Le parti pris ce matin de l'avocate Cathy Richard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur RMC ce matin. C'est aujourd'hui que s'ouvre à Valenciennes le procès de 11 hommes accusés d'avoir eu des relations sexuelles parfois tarifées avec une collégienne de 14 ans. Et tout ça a été organisé par un site qui s'appelle Coco et qu'on retrouve aussi à l'origine du guet-apens qui a coûté la vie à Philippe à Grande-Synthe la semaine dernière. Ce site internet, vous le connaissez bien parce qu'il apparaît dans plusieurs de vos dossiers. Et vous dites ce matin, mais je ne comprends pas qu'il soit encore ouvert ce site.
Oui, il a coûté aussi la vie à Michel, qui était le papa de mes clientes, qui s'est fait piéger sur Coco et qui a reçu un homme chez lui qui l'a assassiné. Et avant ça, cet homme avait trois complices avec lesquels il piégeait des homosexuels. Alors oui, Coco, effectivement, bon, il y a des millions de personnes qui sont sur Coco. Tous les gens qui vont sur
c'est
Coco.
C'est quoi Coco? C'est un site alors, de c'est rencontre.
Non, c'est pas vraiment un site
prostitution,
de
prostitution. C'est un site de quoi?
Non plus. C'est un fourre-tout en fait. Vous savez ce que j'ai l'habitude de
c'est
dire?
C'est une sorte de bon coin, des trucs dégueulasses quoi. Pardon, mais enfin.
Je pense qu'on peut pas non plus dire ça parce qu'il y a des gens qui y vont, qui sont pas forcément là pour des trucs dégueulasses. C'est-à-dire que si Coco n'était que là avec des gens dégueulasses pour des trucs dégueulasses, dans ces cas-là,
ce serait permis depuis longtemps.
Voilà. Et puis il y aurait pas de problème à la limite. Le problème, c'est que on piège sur Coco des gens qui sont là de bonne foi. En fait, Coco, j'ai l'habitude de dire, c'est du darknet dans le white net, c'est-à-dire que c'est du darknet mais facile d'accès. On met juste son nom, enfin un pseudo, ce qu'on veut, son âge. Mais alors bien sûr, c'est quand même délirant. Voilà, on met l'âge qu'on veut. Et puis ensuite, on peut se faire passer pour une mineure, alors que normalement, il faut être majeur pour être sur Coco. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Le problème de Coco, c'est que un, il y a pas de filtre. Deux, il y a pas de modérateur. Donc, on y trouve tout. Des gens de bonne foi, mais aussi des gens qui piègent ces gens de bonne foi.
Mais il y a eu quand même ces drames. C'est-à-dire que c'est pas juste des affaires qui feraient parler ou des polémiques. C'est des drames absolus. Oui, c'est des crimes. C'est des crimes sexuels. C'est des crimes, des assassinats, comme ça a été le cas de Philippe la semaine dernière. Et j'ai l'impression que plusieurs fois, on en parle. Et puis ça retombe et Coco continue à être là. Est-ce que ça veut dire qu'on n'arrive toujours pas à réguler, au-delà de Coco, la question de ces échanges tarifés, interdits et qui pourtant se passent en plein jour?
Ben, la vérité, c'est qu'il faudrait quelqu'un pour regarder ce qui s'y passe sur Coco. Tout est sous le manteau. Du temps de Michel, c'était coco.fr. Maintenant, c'est coco.cc, GG, parce que maintenant, ils sont partis loin des frontières françaises. Mais il faudrait...
Le site est hébergé sur l'île de Guernesey.
Maintenant, voilà.
Et donc au large de la France, mais qui est une île anglaise.
Et c'est toujours un Français qui est derrière, a priori. Hein, donc,
Et pourquoi on n'arrive pas à l'attraper?
Ben, parce que, déjà, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que, finalement, on n'a jamais eu de véritable poursuite pénale, puisque Coco est pour moi un facilitateur d'infraction. Donc, le jour où on partira du principe qu'effectivement, il y a lieu également de mettre en cause Coco dans les infractions, les crimes qui existent, dans ces cas-là, effectivement, peut-être que on cherchera à l'attraper. Mais pour l'instant, moi, dans les dossiers dans lesquels je suis intervenue, Coco n'a pas été mis en cause autrement que dans les médias. Coco n'a pas été mis en cause.
Il n'y a pas de poursuite. C'est-à-dire que là, il y a des poursuites contre des... En l'occurrence, là, par exemple, le procès qui s'ouvre à Valenciennes, ce sont 11 hommes qui sont accusés d'avoir eu des relations sexuelles avec une collégienne de 14 ans. Les choses étaient visiblement évidentes. Il était évident qu'elle était très jeune. Et ça s'est passé sur le site Coco, c'est-à-dire la mise en relation a été faite via le site Coco. Pour autant, Coco n'est pas directement mis en cause. Il n'y a pas de poursuite contre le site internet. On est bien d'accord. Qui pourrait le faire?
Comme par exemple aussi, on a eu une affaire où il y avait un salon de chat qui s'appelait À son insu. Et on a dans d'autres endroits des salons de.
Mais est-ce qu'on a déjà réussi à faire
de voyeurisme? Alors, fermer ce genre de site, je n'en sais rien, mais le poursuivre en France, ça peut ne pas être impossible. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'éventuellement on dépose plainte aussi contre le site pour complicité. Parce que, en ce sens qu'ils ne sont pas instigateurs, mais facilitateurs. C'est un moyen, un médium.
Alors évidemment, sur le site de Coco et dans son règlement, le site se dédouane, je cite, le site coco.gg décline toute responsabilité concernant les rencontres réelles entre les utilisateurs du chat, qui sont des initiatives privées. Donc, en gros, pas vu, pas pris, c'est pas de notre faute, on n'y est pour rien.
Oui, mais si moi, demain, je vends une arme et que je dis, moi, je me dédouane de toute responsabilité.
Parce qu'il y a aussi ça, il n'y a pas que des questions sexuelles, voilà. Il y a aussi des ventes trafic d'armes, trafic de drogue.
Ah bah, il y a tout. Des trafics de tout. Mais je veux dire, à partir du moment où j'explique que pour moi, Coco est une arme, un outil, voilà, un outil, je peux dire aussi, bah, moi, je vends une arme, mais je me dédouane de toute responsabilité sur la façon dont on va l'utiliser. Je veux dire, pour que Coco puisse se dédouaner, il faudrait que Coco mette en place réellement des barrières, que Coco mette en place des filtres, qu'il y ait un modérateur qui empêche ça. Sinon, c'est trop facile d'être facilitateur et de dire « Ah, mais moi, je me dédouane de la façon dont c'est fait. »
Et à la rédaction d'RMC, je peux vous dire qu'on a fait effectivement le test pendant la nuit. C'est épouvantable. C'est-à-dire que honnêtement, Quentin me disait tout à l'heure qu'ils avaient testé avec les journalistes de la rédaction. Et effectivement, il n'y a absolument aucun filtre.
Ouais, mais des sites, il y en a plein, d'accord. Moi, je passe ma vie dans des affaires pénales terribles, mais celui qu'on voit revenir, c'est Coco.
Donc il y a un moment où il y a celui-là qu'il faudrait viser en priorité. Merci maître Cathy Richard. D'ailleurs, je cite votre livre, c'est passionnant, Crime, délit et vie brisée, votre plongée au cœur de la justice et de la nature humaine, parce qu'on l'a bien compris, effectivement, ce sont des histoires souvent extrêmement tragiques. Merci Cathy Richard d'être venue ce matin sur RMC 8h19.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche est avec nous.
Bonjour Arnaud. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, l'excitation commence à monter chez Manu Le Chypre.
Ah.
Car à la fin les agences de notation... Ah voilà.
Ma Ligue des Champions à moi.
Voilà. Fitch et Moody's.
Les Jeux Olympiques.
Fitch et Moody's diront si la note de la France mérite d'être dégradée. Est-ce qu'on aura toujours notre triple A? Pour Manu, il l'a dit, c'est un peu son Eurovision à lui. Ses soirées télé avec un bol de pop-corn, avec 5 ou 6 potes économistes, en pyjama, cravate, sur le canapé. Il y a Pierre Kupferman de BFM Business en combinaison Pikachu qui grignote des M&M's. And now for France! Bruno Le Maire on the bicyclettes.
On préfère Bruno Le Maire. Il veut pas augmenter l'impôt. Il rêve une croissance d'une baisse des taux. Oh,
oh. And now the votes. Moody's for France. AA-. Fitch for France. BB+. And the winner is l'Allemagne, hein, comme à chaque fois.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de suspense.
Manu prépare sa petite soirée. Le four à mini pizza va chauffer. Ça va chauffer.
À propos d'Europe, tiens Arnaud, Bruxelles menaçait de suspendre aujourd'hui TikTok Lite et TikTok a préféré stopper de lui-même cette fonctionnalité. Hein.
Je crois que c'est TikTok Lite.
Lite.
TikTok Lite. Je ne sais pas.
Je sais pas.
On va dire TikTok Lite. C'est une version de TikTok.
Je l'ai faite à la Poincaré.
Voilà, je suis pas là, mais allez.
Donc c'est une version de TikTok où plus tu regardais, plus t'avais des récompenses, genre des bons d'achat. En gros, t'étais payé. Pour regarder TikTok, tout le monde voit ce que c'est. C'est comme une méningite, ça s'attaque au cerveau des enfants. En fait, TikTok trouvait qu'on n'était pas encore assez débiles. Ils étaient là, mon Dieu, il reste encore des gens qui réfléchissent en France. Mais si, regardez les audiences d'Apolline Matin, ça monte, il en reste. Bref, les députés européens trouvaient que les risques d'addiction étaient trop grands. Apo, vous avez 4 enfants, vous savez, c'est déjà dur de les faire décrocher de TikTok pour qu'ils fassent la vaisselle et tout. Faut leur donner de l'argent de poche. Mais si maintenant TikTok les paye aussi, la concurrence
devenait trop dure.
Donc c'est vraiment un délire l'économie chinoise. Hein. Tu payes des enfants pour construire des téléphones, tu payes des enfants pour faire des vidéos monétisées dessus, et maintenant tu payes des enfants pour regarder le tout. Alors de leur côté, les États-Unis ont voté une loi pour interdire complètement TikTok sur leur territoire. Pas pour des questions de santé mentale des gosses, non, c'est parce que les données sont collectées par le gouvernement chinois. Donc si TikTok est vendu à une boîte américaine, ils sont d'accord. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, abrutir nos enfants doit être fait par une entreprise bien chez nous. C'est notre spécialité, on sait faire. Chez nous, c'est pareil, hein, les Chinois aspirent nos données et je les plains, les agents du Parti communiste chinois, ils se tapent des vidéos de Thibaut InShape qui fait de la muscu, des tutos de Enjoy Phoenix qui se maquille, les conseils fringues de Léna Situation. Vous savez ce qu'on risque avec ça? Les Chinois vont devenir très musclés, très bien maquillés, à la pointe de la mode. Ils vont nous envahir en dansant comme ça, en faisant des chorégraphies avec des uniformes super classe. Ça va être l'invasion la plus stylée du monde.
Et puisqu'on parle des jeunes, Arnaud, de plus en plus de villes mettent en place un couvre-feu pour les mineurs.
Voilà, alors on interdit aux moins de 13 ans de circuler dans la rue entre 23h et 6h du matin. C'est bizarre comme horaire, parce que autant des ados de 13 ans qui sortent partaient passer 23 heures, j'imagine bien, mais des ados qui se lèvent à 5 heures du mat pour se balader dans les rues, j'en ai jamais vu, hein. C'est très rare qu'ils mettent le réveil à 4h30, les ados. Allez, je vais faire un petit footing, nettoyer le quartier. Alors, de plus en plus d'enfants sont connus des autorités pour des actes criminels. Il y a des bandes d'enfants maintenant. Mmh. J'en ai croisé l'autre jour, il y en a une bande de CE2 qui foutent la terreur dans mon quartier. Mmh. J'en ai chopé un, je lui ai dit, t'arrêtes de faire peur à tout le monde maintenant. Allez, si t'arrêtes, je te paye des sucettes.
Tu me demandes d'arrêter de faire peur à tout le monde. Mais est-ce que je vois un peu d'amitié? Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce qu'il vous vient à l'esprit de m'appeler parent? Non, vous venez chez moi le jour du mariage de ma fille. Et vous offrez de me payer en sucette. Bonne soirée.
Lui, il est terrifiant, lui.
Terrifiant.
Alors après, j'ai essayé de les soudoyer à l'oasis tropicale, mais c'est pareil, ça marche pas. Hein.
Non, je vais plutôt me risquer sur le bizarre. Ça, faut quand même admettre, c'est plutôt une boisson d'homme. Ceci dit, j'ai connu une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner.
Les enfants, c'est plus que 7 heures, hein. Plus du tout.
En ce moment, à Shanghai, a lieu le salon des professionnels des produits pour adultes. Oui, et il y a une grande tendance, Arnaud, les jouets sexuels guidés par l'intelligence artificielle.
Oui, oui. Alors, voilà, le regard émerveillé du consommateur. Donc, on trouve des produits maintenant qui permettent de faire l'amour à distance ou d'avoir des rapports avec des robots. Ce qui est enfin, moi, j'ai jamais fantasmé sur des robots. Hein, Goldorak à 9 ans, mais ça m'est passé.
Pas pour les mêmes raisons.
Enfin, je veux dire, si j'avais voulu faire quelque chose, l'amour avec quelque chose de froid et d'inhumain, je serais resté avec mon ex, quoi.
Oh alors,
c'est des robots.
J'espère qu'elle ne nous écoute pas. Ouais.
C'est des robots. Non, mais elle ne sera pas parmi lesquels. Hein, Donc, c'est des robots en forme humaine. Attention, hein, c'est forme humaine. Il ne s'agit pas de vivre une aventure romantique avec son grille-pain ou son mixeur à smoothie, ce qui serait échelou. Et dangereux.
Tout à fait.
Les entreprises proposent aussi de confier le contrôle d'un jouet sexuel à un conjoint virtuel créé par intelligence artificielle. Et là, c'est pareil, je me méfie, l'intelligence artificielle, on ne sait pas comment ça évolue. Vous avez peut-être déjà essayé de rallumer un iPhone 2. Ça a vieilli, hein. Si ça se trouve, dans 5 ans, les puces sont abîmées, le machin, il parle en Sri Lankais, tu lui dis, j'ai envie d'un câlin. Et là, la tête tourne à 180 degrés en faisant...
Déjà
erreur,
le film,
système, tuer tous les humains.
Ah non.
Tuer tous les humains. T'es dans l'exorciste, tu sais pas comment l'arrêter. Alors, il y a aussi un réseau social où on peut faire l'amour en ligne en contrôlant les jouets de l'autre. Ça va être dur de passer à l'interview de François Bayrou dans 2 minutes.
Je suis un petit peu perdu là. J'avoue.
Donc là, il n'y a plus besoin de se voir. C'est entre Tinder et Deliveroo. Mais les seuls virus que tu peux choper, c'est des virus informatiques. L'avenir est horrible. On dirait un fantasme de Michel Houellebecq. Oh. Bon, allez. Place à François Bayrou. Bon courage, je fais la transition à votre place. Vous avez vu, je suis sympa. On parle d'Europe sur Apolline.
J'avoue que là, ça va être très, très difficile. Alors, cela dit, entre vous et François Bayrou, il y a le jeu du vendredi 26, parce que demain, à la même heure, il y aura un heureux gagnant qui sera avec nous pour gratter l'un des tickets RMC et gagner jusqu'à 26 000 euros. Vous savez, c'est les fameux vendredi 13 deux fois. Inscrivez-vous, vous envoyez chance au 7-32-16, chance au 7-32-16. Vous avez 5 minutes, il est 8h26, 5 minutes pour envoyer votre SMS, vous inscrire et gagner peut-être demain jusqu'à 26 000 euros et gratter le ticket gagnant avec nous. 8h26 sur RMC, vous le disiez dans un instant. Mon invité, c'est la politique, c'est François Bayrou. Je lui poserai notamment, tiens, la question de tous ces cadeaux, en quelque sorte, en tout cas l'État qui lâche du lest avec les contrôleurs de la SNCF, avec la RATP, c'est une info à RMC ce matin, et avec les contrôleurs aériens. On en parle dans un instant, tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h27.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Et l'information de la matinée à Paris, ce sont les ailes du Moulin Rouge qui se sont effondrées. 3 lettres également de la façade du célèbre cabaret parisien. Tout est tombé au milieu de la route, dans la nuit. On ignore pourquoi, il n'y a pas de blessés, disent les pompiers. La direction du Moulin Rouge assure ce matin qu'il y a pourtant des contrôles toutes les semaines sur les ailes du cabaret. Jusqu'à 75% de vols annulés ce matin dans les aéroports parisiens. Des centaines d'avions malgré la levée du préavis de grève des contrôleurs aériens qui ont trouvé un accord portant notamment sur les salaires. Levée du préavis, trop tard pour éviter les conséquences ce matin. Bras de fer, tiens, dans les transports avant les JO. Force ouvrière et la CGT annoncent un accord à la RATP pour les conducteurs qui demandaient et qui ont même obtenu une prime de 2500 euros. Le foot, Paris, toujours pas champion en Ligue 1 malgré sa victoire 4-1 à Lorient hier soir, car Monaco a gagné à Lille 1-0. Match nul de partout hier soir également entre Marseille et Nice.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes non seulement le président du Modem, mais vous êtes aussi le haut commissaire au plan et le maire de Pau. On va parler des européennes, bien sûr, à 2h du grand discours de lancement de campagne. Enfin, je vous poserai la question sur un lancement de campagne, mais enfin, ça en a tout l'air, d'Emmanuel Macron. Mais je voudrais d'abord vous demander à quoi ça a servi de faire tout ce ramdam pour la réforme des retraites, si finalement on peut partir 18 mois avant l'âge légal, payer 75% du salaire sans bosser.
Oui, il y a beaucoup d'émotions chez beaucoup de Français. Parce qu'ils ont le sentiment que la loi n'est pas la même pour tous. Et que les grandes réformes qu'on conduit, il y a des places fortes qui peuvent s'en abstraire.
Je vais préciser les choses. Il s'agit d'un accord conclu avec les contrôleurs de la SNCF qui ont donc obtenu une forme de dérogation à la loi de réforme des retraites. Les syndicats disent d'ailleurs que c'est une forme de vengeance, de revanche sur la réforme des retraites, puisqu'ils pourront donc partir 18 mois avant l'âge légal avec 75% du salaire.
Alors je vois bien ce qu'on va répondre, ce que la SNCF, ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'était l'État.
Disons que la SNCF, c'est l'État qui est actionnaire à 100%.
C'est vrai, mais c'est l'entreprise, la SNCF, qui a fait cet accord. Et il est vrai que l'État avait suggéré que ce soit une négociation sur les fins de carrière. Mais bon,
vous le
voyez bien. Non, je pense que c'est un très inquiétant exemple. Le message qui est envoyé, le signal qui est envoyé à tous ceux qui ont fini par accepter l'idée qu'on ne pourrait pas avoir de système de retraite équilibré si tout le monde ne faisait pas des efforts. Et les efforts qui ont été annoncés, on peut même s'interroger pour savoir s'ils suffiront. Tous ceux qui ont accepté cette idée, ils se trouvent aujourd'hui avec le sentiment qu'ils sont c'est eux qui vont faire les efforts.
Vous vouliez dire les dindons de la farce ?
Oui, je ne veux pas employer des mots comme ça, mais que c'est eux qui vont faire les efforts et qu'il y a des places fortes. La SNCF en est peut-être une. Il y a beaucoup d'interrogations autour des contrôleurs aériens. Il y a sûrement à la RATP
Je précise d'ailleurs les choses. Un accord a été obtenu et c'est une information RMC. Alors là, pas sur les fins de carrière, mais sur notamment la mobilisation cet été. Ce sera 1600 euros pour tous les agents qui seront mobilisés cet été et jusqu'à 2500 euros de primes pour les conducteurs les plus mobilisés. Ça, c'est un accord qui a été obtenu ce matin avec évidemment une forme de menace de grève pour les Jeux Olympiques. François Bayrou.
La menace n'est pas acceptable. L'accord est compréhensible. Si on demande des efforts particuliers pendant une période particulière où d'habitude les gens sont en vacances, alors il est normal qu'il y ait une compensation, puisque tout l'été va être évidemment mobilisé pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc ça c'est normal. Mais le signal qui est envoyé, c'est absolument certain que c'est un signal qui est, par les Français, mal vécu et à juste titre. Parce que s'il y a des efforts demandés à la totalité de la nation, il n'y a pas de raison particulière de pénibilité, parce que je ne crois pas qu'il y ait une pénibilité particulière. Il y a des contraintes, on n'est pas chez soi pendant les week-ends, tout ça est vrai. Mais
je précise d'ailleurs que les contrôleurs des trains, qui se sont donc vus obtenir cet accord, avaient déjà une retraite plus tôt que les autres, précisément pour tenir compte de ce que vous disiez. Le départ était normalement à 59 ans, il pourra donc se faire 18 mois avant, comme je le disais, avec 75% du salaire. Et que la SNCF a donc coûté 20 milliards d'euros aux contribuables en 2022. Est-ce que vous considérez que dans le temps actuel, et là c'est vraiment aussi au haut commissaire au plan que je m'adresse, François Bayrou, dans le temps actuel, avec les perspectives économiques de la France, avec la situation des finances publiques...
Et celle du régime des retraites.
Et celle du régime des retraites, ça vous paraît le bon timing et le bon message ?
Non, je pense qu'il n'y a d'effort accepté que si que ces efforts sont marqués d'un sentiment de justice, c'est-à-dire si toutes les catégories de la population qui n'ont pas de contraintes particulières physiques, de fatigue exceptionnelle, les suivent, ces efforts. Autrement, c'est ressenti comme, évidemment, c'est toujours les mêmes qui en profitent et c'est toujours les mêmes qui font les efforts. Et donc, non, je pense que ce n'est pas... Alors, je vois très bien que c'est un petit enjeu parce que le nombre de personnes qui vont être concernées par cette décision doit être réduit et que j'imagine ça ne va pas coûter des centaines de millions. Mais je pense que c'est un mauvais signal.
Je le disais, la situation des finances publiques, un mot quand même de ce qui se passe demain, c'est l'agence de notation Moody's qui va rendre sa copie, c'est-à-dire cette agence de notation, et je reprécise bien les choses, il y en a deux très importantes, Fitch et Moody's. Moody's, c'est demain. C'est eux qui analysent en quelque sorte la situation économique à moyen terme de la France et qui disent au reste du monde qui prête de l'argent tous les jours sur les marchés pour payer la dette de la France, qui leur disent, écoutez, voilà le risque que vous prenez en prêtant de l'argent à la France ou non. Et en fonction de cette note, si elle est dégradée ou non, évidemment, ceux à qui on emprunte de l'argent rechigneront davantage à en prêter à la France. Vous êtes confiant, François Bayrou ?
Comme vous savez, cette note a déjà été abaissée
plusieurs fois ces dernières années.
Et puis, c'est à mettre en relation avec quelque chose qu'on fait semblant d'ignorer, c'est que les États-Unis ont un déficit et une dette qui est beaucoup plus importante encore.
Ils dépendent de moins de monde, ils ont leur propre système économique.
Nous avons notre propre système économique.
Ça vous inquiète pas,
donc. Propre monnaie. Non, j'aurais préféré que...
Je vous ai connu plus rigoureux sur les histoires de dette et de déficit.
J'ai été... comme vous le rappelez gentiment, j'ai été celui qui a mis la question de la dette au cœur du débat public français. J'ai même fait des campagnes présidentielles avec ce sujet comme un des sujets principaux de l'avenir du pays. À l'époque, on ne m'a pas écouté. Et je pense que la situation serait très différente aujourd'hui. Mais la dette, il y a deux manières de l'utiliser. Il y a la dette qu'on mobilise pour des investissements, pour moderniser le pays, pour construire des universités, pour construire des hôpitaux, pour avoir des laboratoires de recherche qui nous permettent d'être à la pointe de l'activité mondiale. Et il y a, hélas, la manière dont on l'a utilisé en France, tous les gouvernements successifs, jusqu'en 2017 en particulier, et puis depuis le Covid et depuis la guerre en Ukraine, qui est une dette de fonctionnement quotidien. On utilise la dette pour les dépenses quotidiennes. Ceci n'est pas une bonne orientation. La bonne orientation, c'est de mobiliser notre capacité d'emprunt pour équiper le pays et en faire un pays productif, moderne, capable de
faire
naître
la planification
des richesses. Ça sert à ça. Et nous avons, comme vous savez, publié des études sur la dette dans laquelle nous recommandions cette méthode de « endettez-vous, mais pour investir ». Simplement, aujourd'hui, nous devons regarder le caractère inquiétant du monde. Alors, Poutine a déclenché l'entrée dans un cycle nouveau qui est la loi du plus fort. La loi du plus fort militaire et toutes les autres lois du plus fort qui font que l'Europe se trouve aujourd'hui dans une situation précaire. Et j'imagine que c'est ce que va dire le président de la République.
J'avais envie de dire précisément, est-ce que ce n'est pas c'est-à-dire c'est une des raisons invoquées pour effectivement cette dérive en quelque sorte budgétaire et cette mauvaise conjoncture internationale, mais c'est aussi un moment où on aurait encore plus besoin d'être solide financièrement.
Oui, je pense que heureusement nous avons l'euro et nous avons la Banque Centrale Européenne, ce qui fait qu'on est solide. Imaginez ce qu'aurait été la situation d'un pays comme la France, qui du point de vue des finances publiques est depuis des décennies en situation
fragile,
si la vague de l'inflation était arrivée et que nous avions nos seules épaules pour y résister.
Les efforts promis, c'est-à-dire 20 milliards d'économies ou en tout cas de non-dépenses qui étaient promises et qui ne seront finalement plus versées cette année et des efforts encore supplémentaires l'an prochain, sans augmenter les impôts, ça vous paraît la bonne recette ?
En tout cas, c'est un effort dont tout le monde voit bien qu'il me permet de rééquilibrer une partie de la situation. Mais moi, je veux insister sur le fait que dans le monde comme il est devenu aujourd'hui, pas comme il était en 2007, dans le monde tel qu'il est devenu aujourd'hui, les puissances de la planète, la Chine et les États-Unis, mobilisent des sommes absolument considérables pour maintenir, soutenir leur activité et pour prendre le contrôle des grandes technologies, du numérique par exemple, du cloud, de tout ce qui va faire le cadre de notre des sociétés qui viennent est menacé d'être contrôlé par de très grandes puissances. Et l'Europe, qui a 500 millions d'habitants, qui est plus peuplée que les États-Unis, l'Europe est en situation aujourd'hui d'être d'une certaine manière assiégée. Et si on ne se rend pas compte que c'est ça, alors assiégée militairement, assiégée commercialement, assiégée par la prise de contrôle de très grandes entreprises et de très grandes technologies contemporaines, songez à l'intelligence artificielle par exemple.
Pour vous, l'Europe aujourd'hui est menacée.
L'Europe est aujourd'hui en risque. L'Europe est aujourd'hui en risque d'être soumise aux très grandes puissances que nous avons nommées. Alors Poutine, ça se voit, parce qu'il vient avec des bombes, des obus et des drones.
Au fond, pour vous, il y a Poutine, il y a la Chine et il y a les États-Unis. Et au milieu, il y a l'Europe qui...
Et il y a l'Iran. Ce que l'Iran est en train de répandre, et dont on a vu le 7 octobre le début, et qui a lancé un drame historique qui est celui qui est en train de se passer dans cette partie du monde, à Gaza en particulier. Ça a été voulu. Et ça a été voulu pour empêcher que la paix ne progresse. Parce que il y avait des ferments de paix. Il y avait l'Arabie Saoudite, il y avait le Maroc.
Les accords d'Abraham.
Qui étaient en train de donner corps aux accords d'Abraham, comme on dit, puisque c'était ce front de paix qui était en train de se construire. Et ce qu'a choisi l'Iran, par ses...
L'Iran a souhaité le drame.
Par ses affidés, et notamment par le Hamas le 7 octobre, ce qu'a choisi l'Iran, c'est de créer de l'irréversible. Et de créer de l'irréversible avec une arme, qui est l'horreur. L'horreur, le 7 octobre, selon moi, elle n'était pas un dégât collatéral, comme on dit, un accident, des dégâts comme il y en a dans les guerres, hélas. C'était voulu. C'était pour qu'il devienne impossible de faire la paix. Et donc, vous voyez, la Chine, les États-Unis, ce qui se passe en Iran, et l'affaiblissement interne de l'Europe, la démographie européenne. Le fait que nous sommes une partie de la planète qui, au fond,
qui vieillit.
Consciemment ou inconsciemment, renonce à une partie de son avenir. Et si on ne voit pas que l'Europe est en risque, que la situation aujourd'hui, et notamment le cadre des élections européennes, c'est que les Européens, et parmi eux les Français, qui ont toujours été, et qui sont depuis 7 ans, une puissance motrice, hein, on est une locomotive.
On le reste.
Et personne aujourd'hui ne le discute, je crois. Cette Europe-là, elle est en situation de risque et de fragilité.
Et si elle ne se mobilise pas. Quel doit être le sursaut pour vous, François Bayrou? Parce que le théâtre, ce que vous dessinez est effectivement, objectivement assez tragique. Mais quelle est la réponse? C'est-à-dire, quelle est la réponse?
La réponse, c'est l'unité, c'est la mobilisation des volontés, c'est la décision ou la détermination d'aider ceux
qui... Est-ce qu'il faut une Europe de la défense?
Il faut une Europe de la défense.
Est-ce qu'il faut une Europe plus fédérale?
Vous l'avez
sans doute vu. Il y a eu cet appel dans le Figaro hier de 50 personnalités pour un référendum sur le tour de vis, ce qu'ils appellent le tour de vis fédéraliste de l'Union européenne. Ils parlent d'une dérive. C'est signé notamment par Arnaud Montebourg, par Marcel Gauchet, par Pierre-André Taguieff qui disent qu'il y a une dérive, un projet de réforme des traités qui généraliserait les règles de la majorité. C'est-à-dire pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, l'Europe aujourd'hui, il y a un certain nombre de points sur lesquels il y a une forme de droit de veto des nations qui, si elles ne votent pas, ça n'est pas adopté. Si c'est une majorité simple, ça veut dire qu'il y a des pays qui peuvent, comme la France, ne pas voter et que les choses se fassent malgré tout. Est-ce que vous y êtes favorable? Ça permet d'avancer plus vite, mais parfois au mépris des nations.
On est en train de déformer la réalité. Alors, par des craintes peut-être de bonne foi, mais ces dénonciations ne sont fondées sur rien de vrai. Actuellement, c'est la règle de l'unanimité. Vous voyez bien que la règle de l'unanimité, elle est elle aussi fragile, parce que pour mettre tout le monde disant oui autour de la table, on peut imaginer des règles de majorité. Mais ces règles de majorité qualifiées sont telles que un grand pays comme la France et les grands pays fondateurs de l'Union européenne, l'Allemagne, l'Italie, ne pourront pas être mises en minorité. Et d'ailleurs, je pense qu'il est nécessaire de prendre toutes les précautions sur ce sujet.
Il faut, d'après vous, être vigilant là-dessus, ça veut dire quoi ?
Non, je pense que dans le passé, je vois au moins deux sujets sur lesquels nous aurions pu être mis en difficulté, et nous ne l'avons pas été parce que nous avions la capacité de dire non. La guerre en Irak, beaucoup des pays européens étaient sous la coupe des États-Unis. Et la France a eu la force et l'autorité de dire non. Et le nucléaire. Il y a eu un moment, comme vous le savez, où la position de la France qui dit nous voulons construire,
nous voulons
continuer à avoir un équipement électronucléaire, c'était terriblement discuté. On a essayé de nous mettre en minorité sur ce sujet. On n'y est pas arrivé, heureusement.
François et donc, Bayrou, vous serez sur la liste ?
Si j'ai dit au président de la République, si on me le demande, rassurez-vous, c'est pas pour être dans la partie éligible de la liste.
C'est bizarre d'ailleurs ça. Pardon. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. C'est-à-dire, en fait, on nous dit pas qui seront les éligibles, mais par contre, on nous dit qui seront les non éligibles. C'est pour faire de la figuration.
Non. Là encore,
pour l'instant, on n'a ni les numéros 2, ni les numéros 3, ni les numéros 4 de la liste.
Et les autres non plus. Et donc.
Autres listes ont commencé à donner.
Il y aura naturellement dans les jours qui viennent une publication de listes et c'est normal, mais la liste a voulu attendre le discours du président de la République qui n'est pas à strictement parler un discours de campagne, qui est une adresse à la nation. C'est une interpellation du pays en disant, j'imagine en tout
le
cas,
sursaut auquel vous-même vous appelez François Bayrou.
Le sursaut et la prise de conscience de la gravité de la situation. Jamais depuis 75 ans, l'Europe et nos pays n'ont été dans une situation de risque de déstabilisation aussi grande.
Et ce sera à suivre d'ailleurs sur BFM TV en direct à 11h. Il me reste 2 minutes, j'ai 2 questions avec vous François Bayrou. Une sur les couvre-feux des mineurs, pour, contre ?
Si c'est nécessaire et s'il y a des quartiers dans lesquels la sécurité, et notamment la sécurité des enfants, n'est plus assurée le soir, les maires ont la légitimité de prendre des décisions de cet ordre.
Deuxième question, sur la GPA, le styliste Jacques Mus, en couple avec un homme, a annoncé la naissance de leurs jumeaux, vraisemblablement via une GPA, une gestation pour autrui. Marion Maréchal a réagi en disant « Où est la maman ?» Comment vous réagissez-vous ?
La GPA est interdite en France. Et la GPA, on a annoncé depuis longtemps ça ne pourrait pas être un sujet, en tout cas quand les responsables auront cette prise de conscience que vendre son corps pour donner naissance à un enfant, ça a quelque chose qui heurte le plus profond de ce que nous croyons. La GPA, la porte n'est pas ouverte à la GPA. Il y a le cas particulier sur lequel j'essaie de faire attention, c'est le cas des enfants qui sont en France nés par GPA. Et cela, on ne va pas les bannir, hein ? On ne va pas leur accrocher une étiquette toute leur vie, n'a pas d'identité parce qu'il n'est pas né selon les règles. Et là, moi, je suis moins moins bloqué que beaucoup ne l'ont exprimé. Et on sait bien, Marion Maréchal Le Pen, elle sait très bien qu'il y a, de par le monde, des grossesses qui sont conduites à leur terme comme ça, et parfois pour des raisons généreuses. Parce qu'une femme ne peut pas avoir d'enfant, sa sœur, il arrive quelquefois que sa sœur... Et je ne suis pas... je suis pas à vouloir montrer du doigt des boucs émissaires comme ça. La GPA, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Mais le sort des enfants, moi, je ne suis pas pour les bannir à jamais.
Merci, François Bayrou, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du Modem, haut commissaire au plan et maire de Pau. Merci à vous. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.